Chapitre 12. La salle des pendules, la cour du roi Péto. Dans une vaste salle du palais de Versailles, qu'on appelle la salle des pendules, un jeune homme au teint rose, aux yeux doux, à la démarche un peu vulgaire, se promenait, les bras pendants, la tête inclinée. Il paraissait avoir de 16 à 17 ans. Sous sa poitrine étincelait, rehaussée par le velours violet de son habit, une plaque de diamant, tandis que le cordon bleu tombait sur sa hanche, froissant de la croix qu'il supportait une veste de satin blanc bordée d'argent. Nul n'eût pu méconnaître ce profil à la fois sévère, bon, majestueux et riant, qui formait le type caractéristique des Bourbons de la première branche, et dont le jeune homme que nous introduisons sous les yeux de nos lecteurs était à la fois l'image la plus vive et la plus exagérée. Seulement, à voir la filiation peut-être dégénérescente de ces nobles visages depuis Louis XIV et Anne d'Autriche, on eût pu dire que celui dont nous parlons ne pouvait transmettre ses traits à un héritier sans une sorte d'altération du type primitif, sans que la beauté native de ce type, dont il était la dernière bonne épreuve, se changeât en une figure aux traits surchargés, sans que le dessin, enfin, devînt une caricature. En effet, Louis-Auguste, duc de Berry, dauphin de France, qui fut depuis le roi Louis XVI, avait le nez bourbonien, plus long et plus aquilin que ceux de sa race. Son front, légèrement déprimé, était plus fuyant encore que ceux de Louis XV, et le double menton de son aïeul, tellement accentué chez lui, que, maigre encore comme il était à cette époque, le menton occupait un tiers à peu près de la figure. En outre, la démarche était lente et embarrassée. Bien pris dans sa taille, il semblait pourtant gêné dans le mouvement des jambes et des épaules. Ses bras seuls et ses doigts surtout avaient l'activité, la souplesse, la force, et pour ainsi dire cette physionomie qui, chez les autres, est écrite sur le front, la bouche et les yeux. Le dauphin arpentait donc en silence cette salle des pendules, la même où, 8 ans auparavant, Louis XV avait remis à Madame de Pompadour l'arrêt du Parlement qui exilait les jésuites du royaume, et tout en parcourant cette salle, il rêvait. Cependant, il finit par se lasser d'attendre, ou plutôt de songer à ce qu'il occupait, et regardant tour à tour les pendules qui décoraient la salle, il s'amusa, comme Charles Quint, à remarquer les différences toujours invincibles que conservent entre elles les plus régulières horloges. Manifestation bizarre mais nettement formulée de l'inégalité des choses matérielles réglées ou non réglées par la main des hommes. Il s'arrêta bientôt en face de la grande horloge située alors au fond de la salle, à la même place où elle est encore aujourd'hui, laquelle marque par une habile combinaison des mécanismes les jours, les mois, les années, les phases de la lune, le cours des planètes. Enfin, tout ce qui intéresse cette autre machine, plus surprenante encore, que l'on appelle « homme » dans le mouvement progressif de la vie vers la mort. Le dauphin regardait en amateur cette pendule qui avait toujours fait son admiration et se penchait tantôt à droite, tantôt à gauche, pour examiner tel ou tel rouage dont les dents, aiguës comme de fines aiguilles, mordaient un autre ressort encore plus fin. Puis, ce côté de la pendule examiné, il se reprenait à la regarder en face et à suivre de l'œil l'échappement de l'aiguille rapide glissant sur les secondes, pareil à ces mouches des eaux qui courent sur les étangs et les fontaines avec leurs longues pattes, sans même rider le cristal liquide sur lequel elles s'agitent incessamment. De cette contemplation, au souvenir du temps écoulé, il n'y avait pas loin. Le dauphin se rappela qu'il attendait depuis beaucoup de secondes, il est vrai qu'il en avait déjà laissé écouler un grand nombre avant d'oser faire dire au roi qu'il l'attendait. Tout à coup, l'aiguille sur laquelle le jeune prince avait les yeux fixés s'arrêta. À l'instant même, comme par enchantement, les rouages de cuivre cessèrent leur rotation pondérée. Les axes d'acier se reposèrent dans leurs trous de rubis, et un profond silence se fit dans cette machine où fourmillaient naguère le bruit et le mouvement. Plus de secousses, plus de balancements, plus de frémissements de timbres, plus de courses d'aiguilles et de roues. La machine était arrêtée, la pendule était morte. quelque grain de sable, fin comme un atome, était-il entré dans la dent d'une roue, ou bien était-ce tout simplement le génie de cette merveilleuse machine qui se reposait, fatiguée, de son éternelle agitation? À la vue de ce trépas subi, de cette apoplexie foudroyante, le dauphin oublia pourquoi il était venu et depuis quel temps il attendait. Il oublia surtout que l'heure n'était point lancée dans l'éternité par les secousses d'un balancier sonore ou retardée sur la pente des temps par l'arrêt momentané d'un mouvement de métal, mais bien marquée sur l'horloge éternelle qui a précédé les mondes et qui doit leur survivre par le doigt éternel et invariable du Tout-Puissant. Il commença en conséquence par ouvrir la porte de cristal de la pagode où sommeillait le génie et passa la tête dans l'intérieur de la pendule pour y voir de plus près. Mais il fut tout d'abord gêné dans son observation par le grand balancier. Alors il glissa délicatement ses doigts, si intelligents par l'ouverture de cuivre, et détacha le balancier. Ce n'était point assez, car le dauphin eut beau regarder de tous côtés, la cause de cette léthargie resta invisible à ses yeux. Le prince supposa alors que l'horloger du château avait oublié de remonter la pendule et qu'elle s'était arrêtée naturellement. Il prit alors la clé suspendue à son socle et commença d'en monter le ressort avec un aplomb d'homme exercé. Mais au bout de 3 tours, il fallut s'arrêter, preuve que la mécanique était soumise à un accident inconnu. Et le ressort, quoique tendu, n'en fonctionna point davantage. Le dauphin tira de sa poche un petit grattoir d'écaille à lame d'acier et du bout de la lame donna l'impulsion à une roue. Les rouages crièrent une demi-seconde, puis s'arrêtèrent. L'indisposition de la pendule devenait sérieuse. Alors, avec la pointe de son grattoir, Louis commença à démonter plusieurs pièces dont il étala soigneusement les vis sur une console. Puis, son ardeur l'entraînant, il continua de démonter la machine compliquée et en visita jusqu'aux recoins les plus secrets et les plus mystérieux. Tout à coup, il poussa un cri de joie. Il venait de découvrir qu'une vis de pression, jouant dans sa spirale, avait relâché un ressort et arrêté la roue motrice. Alors il se mit à serrer la vis. Puis, une roue de la main gauche, son grattoir de la main droite, il replongea sa tête dans la cage. Il en était là de sa besogne, absorbé dans la contemplation du mécanisme, quand la porte s'ouvrit et qu'une voix cria « Le roi !» Mais Louis n'entendit rien que le tic-tac mélodieux né sous sa main, comme le battement d'un cœur qu'un habile médecin rend à la vie. Le roi regarda de tous côtés et fut quelque temps sans voir le dauphin, dont on apercevait que les jambes écartées, le torse étant caché par la pendule et la tête perdue dans l'ouverture. Il s'approcha, souriant, et frappa sur l'épaule de son petit-fils. « Que diable fais-tu là ? » demanda-t-il. Louis se retira précipitamment, mais cependant avec toutes les précautions nécessaires pour n'endommager en rien le beau meuble dont il avait entrepris la restauration. « Mais, sire, votre majesté le voit, » dit le jeune homme, tout rougissant de honte d'avoir été surpris dans cette occupation. « Je m'amusais en attendant que vous vinssiez. » « Oui, à massacrer ma pendule, joli amusement !»« Au contraire, sire, je la réparais. La roue principale ne fonctionnait plus. Elle était gênée par cette vis que votre majesté voit là. J'ai resserré la vis et elle va maintenant. »« Mais tu t'aveugleras à regarder là-dedans. Je ne tournerai pas ma tête dans un pareil guépier pour tout l'or du monde. » « Oh que non, sire, je m'y connais, c'est moi qui démontre, monte et nettoie ordinairement l'admirable montre que votre majesté m'a donnée le jour où j'ai eu 14 ans. »« Soit, mais laisse-la momentanément ta mécanique, tu veux me parler ?»« Moi, sire, » dit le jeune homme en rougissant. « Mais sans doute, puisque tu m'as fait dire que tu m'attendais. »« C'est vrai, sire, » répondit le dauphin en baissant les yeux. « Eh bien, que voulais-tu ? Réponds, si tu n'as rien à me dire, je pars pour Marly. » Et déjà Louis XV se cherchait à s'évader selon sa coutume. Le dauphin posa son grattoir et son rouage sur un fauteuil, ce qui indiquait qu'il avait effectivement quelque chose d'important à dire au roi, puisqu'il interrompait l'intéressante besogne qu'il faisait. « As-tu eu besoin d'argent ? » demanda vivement le roi. « Si c'est cela, attends, je vais t'en envoyer. » Et Louis XV fit un pas de plus vers la porte. « Oh non, sire, » répondit le jeune Louis, « j'ai encore 1000 écus sur ma pension du mois. »« Quel économe! S'écria le roi, et comme monsieur de La Vauguyon me l'a bien élevé, en vérité, je crois qu'il lui a juste donné toute la vertu que je n'ai pas. Le jeune homme fit un violent effort sur lui-même. Sire, dit-il, est-ce que madame la dauphine est encore loin? Mais ne le sais-tu pas aussi bien que moi? Moi? Demanda le dauphin, embarrassé. Mais sans doute, on nous a lu hier le bulletin du voyage. Elle devait passer lundi dernier à Nancy. Elle doit être maintenant à 45 lieues de Paris à peu près. Sire, votre majesté ne trouve-t-elle pas, continua le dauphin, que madame la dauphine va bien lentement? Mais non, dit Louis XV, je trouve qu'elle va très vite, au contraire, pour une femme, et en raison de toutes ses fêtes, de toutes ses réceptions, elle fait au moins 10 lieues tous les 2 jours, l'un dans l'autre. Sire, c'est bien peu, dit timidement le dauphin. Le roi Louis XV marchait d'étonnement en étonnement à la révélation de cette impatience qu'il n'avait point soupçonnée. Ah bah, fit-il avec un sourire goguenard, tu es donc bien pressé, toi. Le dauphin rougit plus fort qu'il n'avait encore fait. Je vous assure, sire, balbutia-t-il, que ce n'est point le motif que votre majesté suppose. Ah, tant pis, je voudrais que ce fût ce motif-là. Que diable, tu as 16 ans, on dit la princesse jolie, il t'est bien permis d'être impatient. Eh bien, sois tranquille, elle arrivera, ta dauphine. Sire, ne pourrait-on pas abréger un peu ces cérémonies sur la route? Continua le dauphin. Impossible, elle a déjà traversé sans s'arrêter 2 ou 3 villes où elle devait faire séjour. Alors ce sera éternel. Et puis je crois une chose, sire, hasarda timidement le dauphin. Que crois-tu? Voyons, parle. Je crois que le service se fait mal, sire. Comment? Quel service? Le service du voyage. Allons donc, j'ai envoyé 30 000 chevaux sur la route, 30 carrosses, 60 fourgons, je ne sais combien de caissons. Si l'on mettait caissons, fourgons, carrosses et chevaux sur une ligne, il n'y en aurait depuis Paris jusqu'à Strasbourg. Comment donc peux-tu croire qu'avec toutes ces ressources, le service se fait mal? Eh bien, sire, malgré toutes les bontés de votre majesté, j'ai la presque certitude de ce que je dis. Seulement, peut-être ai-je employé un terme impropre, et au lieu de dire que le service se faisait mal, peut-être aurais-je dû dire que le service était mal organisé. Le roi releva la tête à ces mots et fixa ses yeux sur ceux du dauphin. Il commençait à comprendre qu'il se cachait beaucoup de choses sous le peu de mots que l'Altesse royale venait de dire. 30 000 chevaux, répéta le roi, 30 carrosses, 60 fourgons, 2 régiments employés à ce service. Je te demande, monsieur le savant, si tu as jamais vu une dauphine entrer en France avec un cortège pareil à celui-là. J'avoue, sire, que les choses sont royalement faites et comme sait les faire votre majesté, mais votre majesté a-t-elle bien recommandé que ces chevaux, ces carrosses et tout ce matériel, en un mot, fussent spécialement affectés au service de madame la dauphine et de sa suite? Le roi regarda Louis pour la troisième fois. Un vague soupçon venait de le mordre au cœur. Un souvenir à peine insaisissable commençait d'illuminer son esprit en même temps qu'une analogie confuse entre ce qu'il disait et quelque chose de désagréable qu'il venait d'essuyer lui passait par la tête. Quelle question, dit le roi. Certainement que tout cela est pour madame la dauphine, et voilà pourquoi je te dis qu'elle ne manquera pas d'arriver bien vite. Mais pourquoi me regardes-tu ainsi? Voyons, dit-il d'un ton ferme et qui parut menaçant au dauphin, t'amuserais-tu, par hasard, à étudier mes traits comme le ressort de tes mécaniques? Le dauphin, qui ouvrait la bouche pour parler, se tut soudainement à cette apostrophe. Eh bien, fit le roi avec vivacité, il me semble que tu n'as plus rien à dire, hein? Tu es content, n'est-ce pas? Ta dauphine arrive, son service fait à merveille, tu es riche comme Crésus de ta cassette particulière, c'est au mieux. Maintenant donc, que rien ne t'inquiète, fais-moi le plaisir de me remonter ma pendule. Le dauphin ne remua point. Sais-tu, dit Louis XV en riant, que j'ai envie de te donner l'emploi de premier horloger du château, avec un traitement, bien entendu. Le dauphin baissa la tête, et intimidé par le regard du roi, il reprit sur le fauteuil le grattoir et la roue. Louis XV, pendant ce temps, gagnait tout doucement la porte. Que diable voulait-il dire avec son service mal fait? Pensait le roi, tout en le regardant. Allons donc, voilà encore une scène esquivée, il est mécontent. En effet, le dauphin, si patient d'ordinaire, frappait du pied le parquet. Cela se gâte, murmura Louis XV en riant, décidément je n'ai que le temps de fuir. Puis tout à coup, comme il ouvrait la porte, il trouva sur le seuil Monsieur de Choiseul, profondément incliné. Louis XV recula d'un pas à l'aspect inattendu du nouvel acteur qui venait se mêler à la scène pour empêcher sa sortie. Ah, par ma foi, pensa-t-il, j'avais oublié celui-là. Qu'il soit le bienvenu, il va payer pour les autres. Ah, vous voilà, s'écria-t-il, je vous avais mandé, vous savez cela? Oui, sire, répondit froidement le ministre, et je m'habillais pour me rendre près de votre majesté lorsque l'ordre m'est parvenu. Bien, j'ai à vous entretenir d'affaires sérieuses, commença Louis XV en fronçant le sourcil, afin, s'il était possible, d'intimider son ministre. Malheureusement pour le roi, monsieur de Choiseul était un des hommes les moins intimidables du royaume. Et moi aussi, s'il plaît à votre majesté, répondit-il en s'inclinant, d'affaires très sérieuses. En même temps, il échangeait un regard avec le dauphin, à moitié caché derrière sa pendule. Le roi s'arrêta court. Ah bon, pensa-t-il, de ce côté aussi, me voici pris dans le triangle, impossible d'échapper maintenant. Vous devez savoir, se hâta de dire le roi, afin de porter la première botte à son antagoniste, que le pauvre vicomte Jean a failli être assassiné. C'est-à-dire qu'il a reçu un coup d'épée dans l'avant-bras. Je voulais parler de cet événement à votre majesté. Oui, je comprends. Vous préveniez le bruit. J'allais au-devant des commentaires, sire. Vous connaissez donc cette affaire, monsieur? Demanda le roi d'un air significatif. Parfaitement. Ah, fit le roi, c'est ce que l'on m'a déjà dit en bon lieu. Monsieur de Choiseul resta impassible. Le dauphin continuait de visser son écrou de cuivre, mais, la tête baissée, il écoutait, ne perdant pas un mot de la conversation. Maintenant, je vais vous dire comment la chose s'est passée, dit le roi. Votre majesté se croit-elle bien renseignée? Demanda monsieur de Choiseul. Oh, quant à cela, nous écoutons, sire. Nous écoutons, répéta le roi. Sans doute, monseigneur le dauphin et moi. Monseigneur le dauphin, répéta le roi, dont les yeux allèrent de Choiseul respectueux à Louis-Auguste attentif, et qu'a de commun, monsieur le dauphin, avec cette échauffourée? Elle touche, monseigneur, continua monsieur de Choiseul avec un salut à l'adresse du jeune prince, en ce que madame la dauphine est en cause. Madame la dauphine est en cause, s'écria le roi frissonnant. Sans doute, ignoriez-vous cela, sire, en ce cas, votre majesté était mal renseignée. Madame la dauphine et Jean du Barry, dit le roi, cela va être curieux. Allons, allons, expliquez-vous, monsieur de Choiseul, et surtout ne me cachez rien, fût-ce la dauphine qui ait donné le coup d'épée à du Barry. Sire, ce n'est point madame la dauphine, fit Choiseul toujours calme, c'est un de ses officiers d'escorte. Ah, fit le roi devenu sérieux, un officier que vous connaissez, n'est-ce pas, monsieur de Choiseul? Non, sire, mais un officier que votre majesté doit connaître, si votre majesté se souvient de tous ses bons serviteurs. Un officier dont le nom, dans la personne de son père, a retenti à Philipsbourg, à Fontenoy, à Mahon, un Tavernet Maison Rouge. Le dauphin sembla respirer ce nom avec l'air de la salle pour le mieux conserver dans la mémoire. Ah, Maison Rouge, dit Louis XV, mais certainement que je connais cela. Et pourquoi s'est-il battu contre Jean que j'aime? Parce que je l'aime, peut-être, des jalousies absurdes, des commencements de mécontentement, des séditions partielles. Sire, votre majesté daignera-t-elle écouter? Dit monsieur de Choiseul. Louis XV comprit qu'il n'avait plus d'autre moyen de se tirer d'affaire que de s'emporter. Je vous dis, monsieur, que je vois là un germe de conspiration contre ma tranquillité, une persécution organisée contre ma famille. Ah, sûr, dit monsieur Choiseul, et s'en défendant, madame la dauphine, bruit de votre majesté, qu'un brave jeune homme mérite ce reproche. Le dauphin se redressa et croisa les bras. Moi, dit-il, j'avoue que je suis reconnaissant à ce jeune homme d'avoir exposé sa vie pour une princesse qui, dans 15 jours, sera ma femme. Exposer sa vie, balbutia le roi. À quel propos? Faut-il encore le savoir? À quel propos? À propos, reprit monsieur du Choiseul, de ce que monsieur le vicomte Jean du Barry, qui voyageait fort vite, a imaginé de prendre les chevaux de madame la dauphine au relais qu'elle allait atteindre, et cela pour aller sans doute plus vite encore. Le roi se mordit les lèvres et changea de couleur. Il entrevoyait comme un fantôme menaçant l'analogie qui l'inquiétait tout à l'heure. Il n'est pas possible, je sais l'affaire, vous êtes mal renseigné, duc, murmura Louis XV pour gagner du temps. Nous aussi, je me suis pas mal renseigné, et ce que j'ai l'honneur de dire à Votre Majesté est la vérité pure. Oui, Monsieur le comte Jean du Barry a fait cette insulte à Madame la Dauphine de prendre pour lui les chevaux destinés à son service, et déjà il les emmenait de force après avoir maltraité le maître de poste quand Monsieur le chevalier Philippe de Tavernay est arrivé, expédié par Son Altesse Royale, et après plusieurs sommations civiles et conciliantes. Oh, grommela le roi. Et après plusieurs sommations civiles et conciliantes, je le répète, sire. Oui, et moi j'en suis garant, dit le dauphin. Vous savez cela aussi, vous? Dit le roi, saisi d'étonnement. Parfaitement, sire. Monsieur de Choiseul, radieux, s'inclina. Son Altesse veut-elle continuer? Dit-il. Sa Majesté aura sans doute plus de foi dans la parole de son auguste fils que dans la mienne. Oui, sire, continua le dauphin, sans manifester cependant pour la chaleur que Monsieur de Choiseul avait mise à défendre l'archiduchesse toute la reconnaissance que le ministre avait le droit d'en attendre. Oui, sire, je sais cela, et j'étais venu pour instruire Votre Majesté que non seulement Monsieur du Barry a insulté Madame la Dauphine en gênant son service, mais encore en s'opposant violemment à un officier de mon régiment qui faisait son devoir en le reprenant de ce manque de convenance. Le roi secoua la tête. Il faut savoir, il faut savoir, dit-il. Je sais, sire, ajouta doucement le dauphin, et pour moi, il n'y a plus aucun doute. Monsieur du Barry a mis l'épée à la main. Le premier? Demanda Louis XV, heureux qu'on lui eût ouvert cette chance d'égaliser la lutte. Le dauphin rougit et regarda Monsieur de Choiseul, qui, le voyant embarrassé, se hâta de venir à son secours. Enfin, sire, dit-il, l'épée a été croisée par deux hommes dont l'un insultait et dont l'autre défendait la dauphine. Oui, mais lequel a été l'agresseur? Demanda le roi. Je connais Jean, il est doux comme un agneau. L'agresseur, à ce que je crois du moins, est celui qui a eu tort, sire, dit le dauphin avec sa modération accoutumée. C'est chose délicate, dit Louis XV. L'agresseur, celui qui a eu tort, celui qui a eu tort. Et si cependant l'officier a été insolent? Insolent, s'écria Monsieur de Choiseul. Insolent contre un homme qui voulait emmener de force les chevaux destinés à la dauphine? Est-ce possible, sire? Le dauphin ne dit rien, mais pâlit. Louis XV vit ces deux attitudes hostiles. Vif, je veux dire, ajouta-t-il, se reprenant. Et d'ailleurs, reprit Monsieur de Choiseul, profitant de ce pas de retraite pour faire un pas en avant, Votre Majesté sait bien qu'un serviteur zélé ne peut avoir tort. Ah ça, mais comment avez-vous appris cet événement, monsieur? Demanda le roi au dauphin, sans perdre de vue Monsieur de Choiseul, que cette brusque interpellation gêna si fort que, malgré l'effort qu'il tenta lui-même pour le cacher, on ne put s'apercevoir de son embarras. Par une lettre, sire, dit le dauphin. Une lettre de qui? De quelqu'un qui s'intéresse à Madame la Dauphine et qui trouve probablement étrange qu'on l'offense. Allons, s'écria le roi, encore des correspondances secrètes, des complots, voilà que l'on recommence à s'entendre pour me tourmenter comme du temps de Madame de Pompadour. Non pas, sire, reprit Monsieur de Choiseul, il y a une chose bien simple, un délit de lèse-majesté au second chef, une bonne punition sera appliquée au coupable et tout sera fini. À ce mot de punition, Louis XV vit se dresser la comtesse furibonde et chaud hérissé. Il vit s'envoler la paix du ménage, ce qu'il avait cherché toute sa vie sans le trouver jamais, et entrer la guerre intestine aux doigts crochus et aux yeux rouges et bouffis de pleurs. Une punition, s'écria-t-il, sans que j'aie entendu les parties, sans que je puisse apprécier de quel côté est le bon droit. Un coup d'État, une lettre de cachet. Oh, la belle proposition que vous me faites là, monsieur le duc, la belle affaire dans laquelle vous m'entraînez. Mais sire, qui respectera désormais Madame la Dauphine si un exemple sévère n'est point fait sur la personne du premier qui l'a insultée? Sans doute, ajouta le dauphin, ce serait un scandale, sire. Un exemple, un scandale, dit le roi. Oh, pardieu, faites donc un exemple pour chaque scandale qui se produit autour de vous, et je passerai ma vie à signer des lettres de cachet. J'en signe déjà bien assez comme cela, Dieu merci. Il le faut, sire, dit Monsieur de Choiseul. Sire, je vous supplie, dit le dauphin. Comment, vous ne le trouvez point assez puni déjà par le coup d'épée qu'il a reçu? Non, sire, car il pouvait blesser Monsieur de Tavernay. Et dans ce cas-là, qu'eussiez-vous donc demandé, monsieur? Je vous eusse demandé sa tête. Mais on n'a pas fait pis à Monsieur de Montgomery pour avoir tué le roi Henri II, dit Louis XV. Il avait tué le roi par accident, si vrai monsieur Jean du Barry a insulté la dauphine avec intention de l'insulter. Et vous, monsieur, dit Louis XV en se retournant vers le dauphin, demandez-vous aussi la tête de Jean? Non, sire, je ne suis point pour la peine de mort, votre majesté le sait, ajouta doucement le dauphin. Ainsi, je me bornerai à vous demander l'exil. Le roi tressaillit. L'exil pour une querelle d'auberge? Louis, vous êtes sévère malgré vos idées philanthropiques. Il est vrai qu'avant d'être philanthrope, vous êtes mathématicien, et qu'un mathématicien, votre majesté daignera-t-elle achever, et qu'un mathématicien sacrifierait l'univers à son chiffre. Sire, dit le dauphin, je n'en veux pas à monsieur du Barry personnellement. Et à qui en voulez-vous donc? À l'agresseur de madame la dauphine. Quel modèle de mari! S'écria ironiquement le roi. Heureusement qu'on ne m'en fait pas facilement à croire. Je vois qui l'on attaque ici, et je vois surtout jusqu'où l'on veut me mener avec toutes ces exagérations. Sire, dit monsieur de Choiseul, ne croyez pas que l'on exagère. Véritablement, le public est indigné de tant d'insolence. Le public. Ah. Encore un monstre que vous vous faites, ou plutôt que vous me faites. Le public. Est-ce que je l'écoute, moi, quand il me dit par les mille bouches de ces libellistes et de ces pamphlétaires, de ces chansonniers, de ces cabaleurs, que l'on me vole, que l'on me berne, que l'on me trahit? Eh mon Dieu, non, je laisse dire et je ris. Allons, bon, voilà que vous me faites votre salut de mécontent. Voilà Louis qui me fait sa grimace de boudeur. Suis-je sage ou suis-je fou? Suis-je le maître ou ne le suis-je pas? Le dauphin prit son grattoir et revint à sa pendule. Monsieur de Choiseul s'inclina de la même façon que la première fois. Bon, l'on ne me répond rien, mais répondez-moi donc quelque chose, mordieu. Vous voulez donc me faire mourir de chagrin avec vos propos, avec vos silences, avec vos petites haines et vos petites craintes? Je ne hais pas, monsieur du Barry, sire, dit le dauphin en souriant. Et moi, sire, je ne le crains pas, dit avec hauteur monsieur de Choiseul. Tenez, vous êtes tous de mauvais esprit, cria le roi en jouant la fureur, quoiqu'il n'éprouvât que du dépit. Vous voulez que je me rende la fable de l'Europe, que je me fasse railler par mon cousin le roi de Prusse, que je réalise la cour du roi Pédo de ce faquin de Voltaire? Non, vous n'aurez pas cette joie. Je comprends mon honneur à ma façon, et je le garderai à ma manière. Sire, dit le dauphin, avec son inépuisable douceur, mais avec son éternelle persistance, j'en demande bien pardon à votre majesté. Il ne s'agit point de son honneur, mais de la dignité de madame la dauphine qui a été insultée. Monseigneur a raison, sire, un mot de la bouche de votre majesté, et personne ne recommencera. Et qui donc recommencerait? On n'a point commencé. Jean est un balourd, mais il n'est point méchant. Soit, dit monsieur de Choiseul, mettons cela sur le compte de la balourdise, sire, et qu'il fasse de sa balourdise des excuses à monsieur de Tavernet. Je vous ai déjà dit, s'écria Louis XV, que tout cela ne me regarde pas. L'affaire, ainsi abandonnée à elle-même, fera du bruit, sire, dit monsieur de Choiseul. Tant mieux, cria le roi, et qu'elle en fasse tant et tant que j'en devienne sourd pour ne plus entendre toutes vos sottises. Donc, répondit monsieur de Choiseul avec son implacable sang-froid, votre majesté m'autorise à publier qu'elle donne raison à monsieur du Barry. Moi, s'écria Louis XV, moi, donner raison à quelqu'un dans une affaire noire comme de l'encre, décidément, on veut me pousser à bout. Adieu, messieurs, je passe chez mes filles et je me sauve à Marly, où j'aurai peut-être un peu de tranquillité, si vous ne m'y suivez pas surtout. En ce moment, et comme le roi se dirigeait vers elle, la porte s'ouvrit et un huissier parut sur le seuil. Sire, dit-il, son Altesse royale, madame Louise, attend dans la galerie le moment de faire ses adieux au roi. Ses adieux? Fit Louis XV effaré. Où va-t-elle donc? Son Altesse dit qu'elle a eu de votre majesté la permission de quitter le château. Allons, encore un événement. Voilà ma bigote qui fait des siennes maintenant. En vérité, je suis le plus malheureux des hommes. Et il sortit tout en courant. Sa Majesté nous laisse sans réponse, dit le duc au dauphin. Que décide votre Altesse royale? Ah, la voilà qui sonne! S'écria le jeune prince en écoutant les tintements de sa pendule. Le ministre fronça les sourcils et sortit à reculons de la salle des pendules, où le dauphin demeura seul.